France Culture.
Les nuits de France Culture.
Dans le camp de concentration de Buchenwald, il n'y avait pas d'union entre les prisonniers. Malgré le fait qu'ils subissaient les mêmes conditions de vie, différents blocs se sont formés, notamment par nationalité. Les Français avaient très mauvaise réputation. On leur reprochait l'absence de résistance de la France, et l'on pensait que tous les Français étaient forcément pétainistes. Les nazis faisaient tout pour nuire à la circulation de l'information extérieure, et l'existence même d'un mouvement de résistance française était loin d'être connue de tous. Il y avait pourtant un enjeu central pour la survie de chacun de ces groupes ou blocs, l'arrivée des colis, qui offraient parfois un supplément alimentaire ou de confort aux prisonniers qui les recevaient. Le bloc français, piloté notamment par des militants communistes, met en place une politique de partage équitable des colis, qui change doucement le mauvais a priori des autres blocs. C'est un récit d'une organisation concentrationnaire très particulière que livrent Yves Darrier, Marcel Paul et Christian Pinault dans ce 8e de 27 épisodes du Monde concentrationnaire. Une émission de Francis Crémieux diffusée pour la première fois le 5 mai 1965.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, l'exemple de Buchenwald. Entretien avec Yves Darrier, Marcel Paul et Christian Pinault.
Monsieur Marcel Paul, vous avez été un des dirigeants de la résistance à Buchenwald. Vous y êtes arrivé fin avril 1944. Je voudrais vous poser des questions sur vos difficultés, sur les difficultés, parce que tout de même, il ne faut pas écrire l'histoire en trempant sa plume dans l'eau de rose. Comment cela s'est-il passé?
Vous avez raison de dire que les contacts n'ont pas toujours été à l'eau de rose. La situation des Français était très difficile. À Buchenwald, et dans les autres camps sans doute, mais enfin, je connais Buchenwald. Les différentes parties composantes du collectif français n'étaient pas forcément unies. Buchenwald était considéré comme un camp politique. Et les politiques étaient effectivement, sans doute, sinon en majorité, mais du moins en quantité très importante. Ce qui donnait un autre caractère à nos rapports. Il ne s'agissait pas seulement d'organiser les choses courantes. Il fallait créer les conditions de l'unité. Il fallait absolument aboutir à déterminer des liens qui permettent de faire du collectif français un ensemble, d'abord. Les difficultés que nous rencontrions ont peut-être aidé à souder le collectif français. À l'arrivée, nous avons trouvé une petite organisation française, plus ou moins en liaison avec le comité international. Mais le prestige des Français était rien moins qu'élevé. Tout le monde faisait un procès aux Français. Je ne parle pas des SS qui nous injuriaient, Français sales, Français feignants, Français négroïdes, Français dégénérés, Français race pourrie. Mais les prisonniers, les déportés des autres pays, avaient aussi une très mauvaise appréciation des Français. Les antifascistes allemands appréciaient la drôle de guerre de la façon suivante. Ils indiquaient qu'on avait refusé de se battre et que, par conséquent, on avait aidé à la victoire de Hitler à l'ouest, ce qui lui permettait de se jeter à l'est. Je parle des communistes allemands et des sociaux-démocrates allemands. La majorité était évidemment communiste. Il y avait aussi quelques libéraux. Mais nos discussions ont été aussi dures avec les camarades communistes qu'avec les libéraux ou les sociaux-démocrates allemands sur ces problèmes de la drôle de guerre. Sur ces problèmes de la drôle de guerre.
Pour les Tchèques et les Polonais, est-ce que là aussi, il y avait une majorité de communistes ou bien c'était un grand mélange?
Les Tchèques étaient très mélangés. Il y avait des représentants de la grande bourgeoisie tchèque à Buchenwald. Et ils nous considéraient plutôt comme des victimes qui portaient la responsabilité de leur propre mal. Ils considéraient que la France était entièrement derrière Pétain, que Laval, et que ce comportement était le prolongement de ce qu'ils appelaient le crime de Munich et la livraison que la drôle de guerre représentait pour eux.
Vous n'avez pas parlé des soviétiques.
Au début, nous avions peu de contacts et leur attitude était plus compréhensive. Nous avons eu moins de difficultés avec eux sur ces questions politiques, où surtout les Tchèques, les Polonais et les Allemands étaient aux prises avec les Français. Il a fallu expliquer que la drôle de guerre, ce n'était pas la France, c'était les gouvernants, que la véritable France, c'était les résistants de toute opinion, c'était les gens qui s'étaient levés, c'était la résistance extérieure comme la résistance intérieure, et qu'ainsi la France, notre pays, avait repris sa place dans la grande coalition antihitlérienne, que c'était sur ce plan qu'il fallait se placer pour juger du comportement de la vraie France.
Quand vous êtes arrivé à Buchenwald, la première organisation française était dirigée par qui?
Il y avait deux organisations, une organisation communiste, à la tête de laquelle il y avait des camarades comme Maury, qui est décédé depuis. Il y avait une organisation des autres groupes, à la tête de laquelle se trouvait le colonel Manès, Émile Thomas, qui était arrivé dans le camp avant nous.
Vous trouvez rapidement le contact avec...
Mais ces organisations n'avaient pas de liaison avec l'organisation officielle allemande, ou très peu, et le collectif français restait effectivement isolé.
Donc, une organisation communiste faible, sans grande autorité, une organisation non communiste faible aussi, sans grande autorité, avec une toute petite liaison avec l'organisation allemande qui était le sommet de la pyramide.
Oui, les Allemands avaient des possibilités dans le camp. Le camp était dirigé par les politiques en opposition avec la formule de camp dirigé par les Verts. La prise de possession des postes d'administration intérieure aux Verts avait représenté une longue bataille des communistes allemands. Et les communistes allemands nous disaient, vous arrivez là dans un cadre que nous avons déjà considérablement amélioré. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire pour aboutir à un travail d'ensemble contre l'ennemi commun. Les conditions de discipline nous avaient beaucoup impressionnés. Le règne de la brute dégénère sur les hommes. Et des hommes qui étaient dans ce cadre depuis des années n'avaient pas la même conception des rapports humains que celle que nous avions au cœur, nous qui venions quand même du combat. Et nous avons soulevé cette question dans nos premiers contacts avec les représentants de l'organisation clandestine allemande. Nous avons soulevé le problème de la discipline. Le cadre général, c'était la brutalité SS. Mais les conditions du rassemblement, par exemple, les conditions de répartition des quelques hardes, etc., c'était des questions réglées par les politiques qui occupaient des fonctions. Pour les SS, eux, ils considéraient le résultat final et le moindre désordre aurait été effectivement puni par eux sous des formes abominables. La conception du commandement heurtait les Français. Et nous avons déterminé cette idée qu'il fallait établir des rapports plus confiants, plus fraternels, que nous étions des lutteurs de la même cause. Par exemple, les sanctions dans les blocs. Il y avait des vols. Des hommes mourant de faim volaient du pain à d'autres qui mouraient également de faim. Une guenille qui servait à se protéger le cou, c'était l'objet de convoitise et c'était volé. Et des vols de cette nature, ça déterminait quelquefois des mesures allant jusqu'à la mort. Ceux qui n'ont point connu n'ont point sans doute la possibilité de comprendre. Les Français ont avancé cette idée que Il fallait absolument en appeler à tous ces hommes et déterminer chez eux le sentiment que le voleur avait tort et qu'il était aussi un résistant, sans doute dans nombre de cas, et que c'était la détresse, la misère, l'état dans lequel il se trouvait qui déterminait ses gestes, inacceptables évidemment, moralement. Les Français ont pu faire admettre au sein du comité international la création de comités de bloc qui avaient à connaître des délits, qui avaient à connaître des conditions de discipline, comment il fallait rassembler les hommes pour qu'il n'y ait pas à crier, pour qu'il n'y ait à bousculer personne, c'est-à-dire qu'aucune circonstance, aucune occasion, aucun prétexte ne soit donné au SS d'intervenir. C'était la première grande victoire et ces cloisons, ces éléments de discorde ont été ainsi terriblement affaiblis et nous avons pu aboutir à un premier et important rapprochement entre nationalités.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour prendre ces contacts et obtenir ces résultats ?
C'est dans l'été que la compréhension s'est établie. Le collectif français avait pris conscience qu'il lui fallait faire bloc. J'avais rencontré Manès, l'adjoint de Jean Moulin, et nous avons décidé ensemble de la formation d'un comité des intérêts français très large, qui était présidé, enfin, c'est un grand mot, mais enfin, dont pour nous, le personnage central était Frédéric Manès. Il y avait dans ce comité, des noms de mémoire, Eugène Thomas, qui était ministre des PTT, Forcinal, parlementaire de l'Eure. Il y avait André Vautier, un résistant du Front National, Jean Loube, communiste des PTT.
C'était un petit CNR à l'échelle du camp.
Qui s'appuyait sur l'ensemble des organisations que nous avions reconstituées dans le camp. Le meilleur moyen de contrôler les arrivants, c'était moralement de les rattacher à l'organisation à laquelle ils dépendaient en France. Nous avons relevé ainsi l'existence de 32 ou 33 organisations de la résistance, rassemblées par famille. Par exemple, il y avait une famille qu'on appelait la famille socialisante, avec les organisations de Libé, Libé Nord, Libé Sud. Eugène Thomas représentait cette famille socialisante dans le comité clandestin français. J'y représentais les organisations communistes ou considérées comme sympathisantes ou se rapprochant, les FTP, la CGT. Il y avait les organisations de droite qui avaient leurs représentants au comité clandestin, de telle façon que le comité clandestin n'était pas une constitution artificielle, mais une constitution reposant effectivement sur des hommes qui étaient organisés élémentairement sur la base de leur appartenance aux organisations en France.
Alors ce comité clandestin, il se réunissait ?
Il se réunissait de temps à autre.
Comment ?
Eh bien, au bout d'un bloc, en cachette évidemment, ou dans le coin d'un lavabo, enfin, furtivement, quelques instants pour échanger évidemment les idées et arrêter les décisions. Nous n'avions pas de longs palabres. Une réunion du comité clandestin français demandait quelques instants et pourtant toutes les décisions étaient en définitive prises par le comité clandestin lui-même.
Et vous aviez beaucoup d'agents de liaison, sans doute.
Et alors courait une multitude de ficelles invisibles, les agents de liaison avec les blocs, les agents de liaison avec les groupes de résistance, les agents de liaison avec les commandos, car nos camarades étaient affectés dans les commandos plus ou moins durs. Il y avait des commandos plus durs à éviter, des commandos plus doux. Il y avait bataille entre les représentants des collectifs de chacun des pays pour faire affecter les camarades les plus fatigués. Il y avait bataille contre le départ en transport. Il y avait bataille pour l'admission au revir. Il y avait bataille politique sur tous les plans et la liaison se faisait par ces mille liens invisibles, un coup d'œil quelquefois ou quelques mots échangés.
Et dans la journée, tous ces hommes, sauf les malades, travaillaient.
Étaient affectés en usine, étaient affectés sur des chantiers, à la carrière ou ailleurs.
Vous-même, où travaillez-vous ?
J'étais au BAO commando, c'est-à-dire le commando de travail intérieur du camp, ce qui me permettait d'assurer quelques liaisons avec un peu plus de commodité. Mais J'étais resté affecté au petit camp, à un des blocs les plus durs, le bloc 57, qu'on appelait le bloc des morts à un moment. Les SS n'y pénétraient que moins souvent, et l'organisation clandestine française y avait son siège, si je puis dire. C'est-à-dire que c'était à partir de là qu'un certain nombre de liaisons s'effectuaient.
Donc, cette reconstitution de l'unité de la résistance vous met en position plus solide vis-à-vis de vos camarades du comité international.
Effectivement, nous avons expliqué à nos camarades allemands qui étaient arrêtés pour certains depuis 1933 et qui n'avaient point connu les conditions de la lutte antifasciste en France et dans d'autres pays. En France, les forces de liberté, de démocratie s'étaient coalisées pour lutter en commun contre l'ennemi hitlérien et que notre organisation à Buchenwald était sur ses bases. Qu'il y avait dans cette organisation des communistes, qu'il y avait des gens de toute opinion et que c'était cela notre collectif et que notre collectif devait être considéré sur ce plan et non pas sur un autre. Évidemment, ce que la résistance représentait dans la forme qu'elle a revêtue en France était pour eux une découverte, absolument une découverte. Nous avions les liaisons avec les représentants du collectif allemand qui a joué un très grand rôle et des liaisons avec des représentants des différents collectifs étrangers importants, par exemple. Les Tchèques, les Polonais, les Espagnols, les Yougoslaves. Et ces liaisons étaient évidemment de même nature que celles dont j'ai parlé entre Français, des liaisons furtives, quelques mots échangés, avec la complication supplémentaire. Il y avait les questions d'interprétation. Alors, lorsqu'il s'agissait d'étrangers qui ne parlaient pas notre langue, comme moi je ne parle que le français, c'était impossible. Mais l'explication, effectivement, a été sollicitée. Il y avait surprise de ce bloc des Français. Il s'était ainsi réalisé. Il y avait surprise. Dans les autres collectifs, eh bien, il y avait souvent d'une part les communistes, puis d'autre part les autres, les non-communistes et les anti-communistes. Et la cohabitation, ou enfin la coopération, était des plus réduites. Nous, notre collectif ne comportait absolument qu'une expression. Et nous avons indiqué que notre coopération au comité international se placerait sur ce plan, que le représentant du collectif français ne serait pas le représentant des communistes français, mais le représentant des résistants français de toute opinion.
À ce sujet, j'ai demandé à Yves Dariet, qui était un de vos co-détenus, de me parler de l'existence et du contenu des débats politiques ou idéologiques qui pouvaient avoir lieu à Buchenwald. Et voici sa réponse.
Il y a eu des débats d'ordre tactique, d'ordre idéologique, mais Dieu merci, ces débats se sont passés au sommet.
Quel genre de débats, par exemple ?
La tendance générale des représentants des groupements résistants étrangers était traitement communiste, d'une manière générale.
Oui.
Cet amalgame que constituaient, par exemple, les groupements français, même sous ce nom de Front National, qui pouvait sonner ne leur plaisait guère. Ils soupçonnaient beaucoup trop de Roland Bourgeois à l'intérieur de tout cela. Enfin, il leur déplaisait qu'il y ait autant de... Parce que, curieusement, il y avait beaucoup de prêtres chez nous, c'est vrai.
Ils auraient préféré avoir des contacts uniquement avec les communistes français.
Oui, tout de même, les communistes français ont tenu bon, parce qu'il eût été facile peut-être d'essayer de dissocier enfin, cette unité qui s'était créée.
Ils considéraient les non-communistes comme des hommes pas sûrs.
Douteux, enfin, qui ne les intéressait pas a priori.
Il semble que ce soit d'abord aux détenus communistes allemands que pense Yves Dariet.
Vous savez, il est certain que près de ses camarades et chez ses camarades qui étaient là depuis 12 ans, 13 ans, qui avaient connu tant de mouchardages, qui avaient connu tant de pertes, car ces Allemands n'étaient plus qu'une minorité par rapport au groupe d'antifascistes arrêtés. Il y avait chez eux des mesures de méfiance que l'on peut absolument comprendre, que comprennent sans doute mieux ceux qui ont vécu l'atmosphère des bagnes allemands et l'atmosphère des camps. Il y avait des réticences, il y avait évidemment un souci de sécurité, que cela les entraînait sûrement à un certain isolement, et nous avons travaillé près d'eux à les convaincre que les communistes en Allemagne seuls avaient été battus, mais que le Front populaire en France, c'est-à-dire l'alliance de toutes les forces de gauche, avait triomphé. Et que si nous avions la volonté de nous défendre utilement contre les attaques des SS, de lutter offensivement pour continuer dans les conditions du camp, la bataille de la résistance, il fallait absolument aboutir à l'unité de toutes les forces antifascistes et antimilitaristes allemandes.
Monsieur Christian Pinault, vous êtes un des symboles vivants de la résistance à Buchenwald, puisqu'aussi bien vous vous appeliez Grimaud et jamais on n'a pu percer votre identité. Vous venez d'entendre ce qu'a dit votre codétenu et camarade Marcel Paul. Je voudrais, s'il vous plaît, en parallèle, avoir sur ce plan aussi votre témoignage.
Écoutez, je n'ai pas la prétention de connaître aussi bien que Marcel Paul tout ce qui s'est passé à l'intérieur de Buchenwald, notamment en ce qui concerne les rapports internationaux. Mon rôle était certainement beaucoup plus limité que le sien, puisque je m'occupais de la solidarité, de mon comité de bloc, et par conséquent, il sait des choses que je ne sais pas, et parmi tout ce qu'il a dit, je n'ai rien relevé qui soit en contradiction avec mes observations personnelles. Toutefois, je ne ferai qu'une réserve qui correspond à ce que j'ai vu, c'est que je n'ai pas l'impression que l'organisation des intérêts français ait été aussi centralisée et ramifiée à la fois que l'indique notre camarade Marcel Paul. Parce que nous avions une vie interne du bloc qui était tout de même assez isolée par rapport aux autres blocs. Je crois que c'est un élément important. Pour une raison très simple, d'ailleurs, que nous nous connaissions mieux, que nous nous jugions mieux. Marcel Paul, par exemple, a parlé des voleurs. Eh bien, le comportement à l'égard des voleurs était tout à fait autre. Par exemple, dans un bloc de Polonais ou dans un bloc même de Russes, le voleur était presque automatiquement tué, alors que dans les blocs français, nous étions déjà un peu plus indulgents. Par conséquent, suivant le dosage de chaque bloc, par nationalité, les réactions n'étaient pas les mêmes. Et lorsque, par exemple, nous parlions des départs en transport, nous avions à faire un choix. Eh bien, ce choix se faisait bien à l'intérieur du bloc. Et c'était le chef de bloc, après avoir consulté le comité de bloc, qui envoyait des noms. Et ensuite, évidemment, il y avait peut-être un organisme supérieur qui faisait un deuxième tri. Mais enfin, le tri le plus difficile, le plus fondamental, était tout de même fait à la base.
Ce qui revient à dire que bien souvent, et je ne pense pas d'ailleurs que M. Marcel Paul ait voulu indiquer le contraire, bien souvent, des initiatives, et de graves initiatives, étaient laissées à l'échelon même du bloc.
Oui, et puis je n'en ai pas fait mention tout à l'heure, vous savez, il faut en faire une part énorme, celle du débrouillage individuel, se superposant à toutes ces actions collectives.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était L'exemple de Buchenwald, une émission de Francis Crémieux, diffusée pour la première fois le 5 mai 1965 sur France Culture, avec Yves Darrier, Marcel Paul et Christian Pinault. À suivre.